Avec aujourd'hui Adriano Senivia, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Magma, Adriano Senivia. Vous êtes metteur en scène d'opéra depuis longtemps maintenant. Vous avez un magnifique parcours de mise en scène de l'opéra. Ce n'est pas la première fois que vous venez à l'opéra de Lausanne d'ailleurs.
Et je me réjouis de revenir à nouveau.
Pour un spectacle qui s'annonce assez flamboyant, c'est la Cenerentola de Rossini, Cendrillon évidemment. Donc une mise en scène à découvrir à partir du 2 octobre pour 1, 2, 3, 4 et 5 représentations. On parlera de la musique évidemment, de vos intentions de mise en scène pour ce qui est peut-être un des contes de fées les plus connus, non ? Il est important pour vous ce conte de fées quand
Mais
vous étiez
absolument, comme tout le monde, je pense qu'on a des souvenirs d'enfance et d'adolescence.
Et d'adolescence liés à la Cenerentola, c'est-à-dire à Cendrillon. On va parler également avec vous, Nicolas Jure, d'un film, qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur l'écran de Suisse romande. Ce film s'appelle Marguerite, film de Xavier Giannoli, et ça parle de quelqu'un qu'on connaît un peu sur Espace 2, en tout cas les mélomanes d'opéra connaissent cette personne.
Oui, c'est l'histoire d'une soprano qui se paye un récital, si on veut, mais qui n'a aucun talent et que personne n'ose arrêter parce qu'elle est riche et qu'elle peut se permettre cela dans la haute société parisienne. Ici, c'est à Paris, mais l'histoire, vous la connaissez, c'est celle de Florence Foster Jenkins, cette fameuse soprano américaine des années 30, qui a été jusqu'à Carnegie Hall. On va raconter un peu cette histoire et voir pourquoi ce personnage fascine, parce que non seulement il y a Marguerite, mais il y a un autre film en préparation avec Meryl Streep dans le rôle de Florence Foster Jenkins. Alors pourquoi cette fascination pour ces voix de ratées finalement?
À tout à l'heure, Nicolas Julien. On va grouver un peu aussi dans cette émission à l'occasion du festival, le Holy Groove Festival, festival de funk music qui a lieu à Lausanne. Et ça commence le 30 septembre pendant 4 jours. On aura au téléphone un des programmateurs et puis des petits extraits comme ça des groupes qui sont invités dans cette édition. En régie aujourd'hui, c'est Christophe Esseva qui réalise Magma. Soyez toutes et tous les bienvenus.
Salagadoola, Metricaboola, Bibbidi-Bobbidi-Boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-Bobbidi-Boo. Salagadoola, Metricaboola, Bibbidi-Bobbidi-Boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo.
Et voilà, là j'annonce donc Claudio Abbado à la tête d'un orchestre. Adriano Senivia, j'avais envie d'écouter quand même ces quelques secondes du film, évidemment, de Walt Disney. Pour d'abord poser le cadre, c'est Cendrillon, évidemment, qui a été revu par tout l'imaginaire, disons, féerique de Walt Disney dans le courant du XXe siècle. Mais l'histoire est la même, à quelques exceptions près. Voilà, il n'y a pas la fée, d'abord, pas de fée. Là.
Pas tout à fait, disons.
Pas tout à fait.
Et il n'y a pas de chaussures, déjà.
Il n'y a pas de chaussures parce qu'à l'époque, on n'osait pas montrer les jambes.
Les chevilles, c'était mieux à l'époque.
Et donc, des petites transformations. Mais justement, au niveau de cet imaginaire, quand on pense à Cendrillon, on pense au conte de Perrault, à cette version, peut-être malheureusement, mais on y pense quand même à cette version de Walt Disney. Je vous ai déjà posé la question. C'est pas quand même une histoire un peu pour les filles. Quand vous étiez petit garçon, Cendrillon, vous, c'était quelque chose qui vous faisait rêver aussi.
On est tous vraiment éblouis par les films de Walt Disney, naturellement. Et encore aujourd'hui, bizarrement, avec tout le féminisme qu'on a pu avoir, pour lequel j'ai pu travailler, les filles rêvent toujours au prince charmant, quand même.
Elles rêvent toujours au prince charmant. Bon, on va recommencer, si vous voulez, au début, parce qu'on est là pour parler de l'opéra de Rossini.
D'accord.
J'ai à disposition cette ouverture, un extrait de l'ouverture dans la version de Claudio Abbado. Vous restez avec nous, on écoute un peu de la musique qui sera donc entendue à l'opéra de Lausanne à partir du 2 octobre. Thank you. Magnifique musique de Rossini ici. C'était longue ouverture de la Cenerentola. Adriano Rossini, vous nous glissiez comme ça hors antenne que, en fait, vous avez décidé de commencer directement dès les premières mesures, en fait, à proposer un spectacle au public. Ce qui est une bonne idée. On entend dans cette musique qui
ça. Ah, ça donne envie.
ça donne tout à fait envie. Alors plongez-nous peut-être au début. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que vous allez accueillir les gens?
L'idée, c'est de montrer un peu le tout ce qui fait Cendrillon dans cette maison, et aussi introduire l'idée que c'est une histoire qu'on raconte à une petite fille. Donc elle s'imagine tout cet opéra, tout ce conte de fées dans sa tête. Donc on est un peu dans le regard de la petite fille, même si c'est pas un spectacle enfantin, mais disons c'est un peu l'excuse pour pouvoir créer la magie dans les spectacles.
Donc le conte de fées, vraiment, ça a été à la base vraiment de votre intention. Vous voulez vraiment exploiter ça au maximum.
Si Vigy m'a proposé ça, c'est évident que quand on pense Cendrillon, on a envie de faire quand même le conte de fées dans toute sa splendeur. Et même si on rêve pas tous du prince charmant, mais on rêve tous d'un virement de situation comme tel qu'il a vécu cette Cendrillon, que d'un état est passé à un autre état beaucoup plus avantageux.
C'est quoi, c'est toute sa splendeur, justement, au conte de fées, Adriano Rossini?
Ben, c'est la magie, c'est le surréalisme, le rêve. Donc, quand on se souvient enfant, on nous racontait les contes de fées avant de s'endormir, et la nuit surgissent ces images un peu dans les rêves. Et c'est un peu le principe de la scénographie, que tout surgit du noir comme dans les rêves, justement, et tout. Toutes les images se composent un peu d'une façon hasardeuse, si on veut, et créent les images du rêve. Donc très, très difficile et très, très compliqué, mais voilà.
Une sorte d'oscillation entre la réalité et le rêve, comme ça, au cours de l'action.
Mais il faut dire que dans la musique de Rossini, on a tout ça. On a un mélange entre la vérité, bouffonnerie et rêve. Plutôt pour le rêve, la vérité, et on ressent ça beaucoup, et donc le principe, c'est ça, vraiment, on est dans l'imaginaire complet. Donc même, on parlait tout à l'heure, il n'y a plus la fée, mais Alidor, déjà le nom...
En fait, c'est le précepteur du prince.
Voilà,
hein,
le nom, déjà, ça rappelle les ailes dorées, donc c'est vrai que c'est, disons, d'une façon cachée aussi, la fée, un ange. Et donc, on a redonné un peu, j'ai essayé de redonner un peu le fantastique et la magie à ces personnages qui transforment la vie de Cendrillon avec,
Donc ça finit bien, évidemment, ça va
très
bien.
C'est un mélodrame.
Se terminer. Aspect de la bouffonnerie, du comique également, il s'exprime dans la musique, c'est un opéra bouffe. Donc on est vraiment dans des moments, des situations qui sont vraiment.
Mais c'est mélodrame à Giocoso,
c'est pas tout à fait opéra bouffe.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça. Donc c'est vrai qu'on peut opter, il y a mille façons de faire une mise en scène, en tout cas, opter pour la bouffonnerie. Moi, j'essaie plutôt de rester sur la vérité et le rêve, voilà, disons, sur les deux directions qu'avec mon équipe on a choisi.
Est-ce qu'il y a des contraintes dans la partition? J'ai parlé avec quelqu'un du Guillaume Tell de Rossini. On est le même compositeur, mais pas du tout dans le même registre. Et on parlait de la, entre guillemets, difficulté d'une mise en scène très élaborée, parce qu'il y a beaucoup d'effectifs, beaucoup de gens tout le temps sur scène, beaucoup de cœurs, beaucoup de choses comme ça. Donc ça limite aussi les capacités. Avec cette Cenerentola, vous vous êtes senti dans un espace vraiment de liberté. Il y a quand même des contraintes un peu de temps en temps.
Mais il y a beaucoup de contraintes. Ouais. Rossini, c'est toujours des contraintes pour mettre en scène.
C'est
toujours, c'est une casse-tête complet. Disons que là, il n'y a pas les cœurs femmes, bizarrement. Il n'y a que des hommes. Donc, pour un bal, c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, par contre, d'un coup, une implication de tout ce qui est machiniste, machinerie technique. Et qu'heureusement, ici, on a une très bonne équipe qui s'est donnée à cœur joie de réussir à réaliser les images, les mouvements sur scène. Et donc, disons que même si sur scène on voit que les protagonistes et le cœur, derrière, il y a une fourmilière de personnes qui travaillent pour la réussite du spectacle.
Ce qui n'aurait peut-être pas été possible il y a quelques années avant que l'opéra ne subisse sa transformation, parce qu'on a à disposition un beau plateau.
Absolument.
Avec, etc., des beaucoup de...
Mais je tiens à souligner aussi la bonne équipe type de machiniste qu'il y a au théâtre.
Souvent dans vos productions, vous avez recours à beaucoup d'accessoires, d'artistes, de machinistes, de choses. Moi, je me souviens d'une production, vous en avez fait plusieurs, il y en avait une en 2012 qui m'a vraiment marqué, c'était l'Élixir d'amour de Donizetti, où on était plongé comme ça dans un univers avec un tracteur géant et puis des tout petits personnages. Et j'ai le souvenir, effectivement, en étant dans la salle, qu'il ne se passait pas 5 minutes sans que quelque chose apparaisse à gauche, à droite, du haut, du bas. Il y a ce côté vraiment foisonnant un peu dans la plupart de vos mises en scène.
Là, il faut appeler Freud. Est-ce que j'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais enfant?
Non, mais parce qu'on est des fois en face de metteurs en scène qui jouent plutôt la carte comme ça peut-être de la sobriété ou de l'intériorité. Je comprends bien qu'avec Cendrillon, c'est pas exactement le principe, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous affectionnez particulièrement.
Mais je pense que on change. Je pense qu'avant, j'utilisais beaucoup plus, par exemple, les danseurs, les acrobates, les animaux même. Donc, en plus, chaque ouvrage appelle une façon de le traiter différente. Donc, je ne sais pas si... Mais peut-être que c'est vrai que j'affectionne beaucoup les accessoires.
En tout cas, en l'occurrence, en 2012, c'était tout à fait vivant et très rythmé. J'en ai sorti, j'étais pas le seul hein, d'ailleurs. Cet opéra partie est diffusé sur la télévision en boucle, donc il y avait un gros succès. Adriano Sinivia, donc c'est la Cenerentola de Rossini qui est à proposer à partir du 2 octobre. J'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil à votre beau parcours dans la mise en scène d'opéra. Puis au début, je voyais au niveau des formations, vous avez été formé auprès notamment du mime Marceau.
Et c'est quand même. J'ai eu la chance de le suivre.
Vous l'avez suivi, vous l'avez connu. Ça, j'imagine que dans un parcours artistique, c'est quelque chose qui doit vous accompagner encore maintenant. Ou vous pourriez nous raconter un peu qu'est-ce que vous avez découvert dans le mouvement, probablement. Ah oui, évidemment.
Bon, c'est vrai que le mouvement pour l'opéra c'est essentiel. Mais en tout cas, je pense toute formation dans le théâtre, dans les spectacles. Je suis surtout scénographe aussi comme formation. Ça aide. Maintenant, je ne fais pas faire du mime au chanteur ni de l'acrobatie, mais je pense que ça aide simplement pour avoir un œil sur le mouvement et sur les déplacements sur scène.
Sur ce qu'on veut offrir finalement au public, disons.
Voilà.
Vous avez le public à l'esprit beaucoup quand vous faites une mise en scène. Vous vous mettez dans la peau, par exemple, d'un spectateur qui va pouvoir... C'est pas le cas de tout le monde. Hein.
Voilà. D'ailleurs, j'ai toujours essayé de faire si que le public, même pas, qu'il soit pas mélomane, qu'il puisse ne pas s'ennuyer, ne pas s'emmerder sur scène, disons, sur scène, au théâtre. Et oui, c'est un peu le but, mais pas forcément être, tomber dans la facilité pour plaire, mais disons, voilà, je me pose d'aller dans l'habit d'un spectateur, si me plaît, j'espère que ça plaise aussi.
Donc c'est une sorte de posture qui est fréquente, hein, disons, c'est pas forcément seule, mais je pense qu'il y a dans les artistes créateurs des groupes qu'on peut comme ça créer. Ça veut dire que vous choisissez les œuvres aussi avec précaution, parce que si le but c'est que le public passe un bon moment, peut-être que dès le choix de la partition, il faut que vous ayez quelque chose en commun avec la musique, non?
Oui, il faut dire que ça se passe différemment. On nous propose, le directeur artistique propose des ouvrages, et là, à nous d'accepter ou pas. Mais en même temps, chaque ouvrage, je pense, même si c'est pas comique, enfin, on m'a un peu classifié dans Rossini, dans des ouvrages un peu bouffes, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'attaquer également à des choses plus sérieuses également, parce qu'il y a toujours une façon de voir différemment chaque ouvrage et offrir une vision différente. À la chose.
Alors cette musique de Rossini, je voyais en l'écoutant, vous aviez le sourire et les yeux qui brillaient tout de suite, Adrien Rossini, donc c'est une musique qui vous parle, qui vous touche.
Ça fait un an que je l'écoute,
et pourtant, ça fait un an que vous l'écoutez, donc vous êtes toujours aussi... Oui. Vous avez cette oreille aussi pour un répertoire, je ne sais pas, peut-être un peu plus contemporain, plus moderne, vous pourriez envisager d'être séduit comme ça.
Souvenez-vous, on avait fait ici, il y a quelques années, le Monsieur de Pourceaugnac, de Franck Martin, c'est ça. Et donc, c'était contemporain. C'est plus difficile au premier abord, mais pareil, vu qu'on travaille un an dessus, chaque fois pour un opéra, voire deux ans, on a le temps de s'affectionner, de rentrer et comprendre les propos du compositeur et voilà, et rentrer dans son univers. Donc, c'est toujours excellent de pouvoir découvrir aussi une autre façon d'aborder la musique. qui est celle qu'on connaît tous, de Verdi, Rossini, etc.
Mmh. Adriano Sinivia, avec nous donc pour cette Cenerentola de Rossini, à découvrir à partir du 2 octobre à l'Opéra de Lausanne. L'Opéra de Lausanne, ce n'est pas votre première collaboration, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 déjà.
Absolument, je suis un aficionado. Et d'ailleurs, vous savez que le public a toujours bien accueilli mes venues, donc j'espère que ce sera la même chose cette fois-ci.
Donc il y a des choix d'œuvres, il y a des choix d'endroits aussi pour vous. Il y a des tout d'un coup des troupes, des villes, des opéras dans lesquels vous sentez que les énergies sont favorables.
Peut-être Monsieur Vigée aime beaucoup, donc
ça, c'est bien ça.
C'est bien.
C'est un bon point.
Voilà, je suis très content qu'il m'appelle ici parce qu'encore une fois, d'un coup, je connais bien l'équipe technique. Et je sais que ce spectacle, sans eux, je pense qu'ailleurs, j'aurais pas pu le faire parce que c'est vrai, c'est très délicat et très. Ça demande une précision absolue dans les déplacements, dans les mouvements.
Vous êtes le metteur en scène de cet opéra, Adriano Sinivia. Un mot quand même, parce qu'on va la découvrir sur la scène à partir du 2 octobre. Un mot sur Serena Malfi, que vous venez de connaître probablement, que vous venez de t'entendre chanter pour la première fois. Faites-nous un peu envie. Je sais d'ailleurs ce que vous allez répondre déjà, mais je crois qu'on est là en présence de quelqu'un qui a une voix assez incroyable, c'est ça?
Elle est excellente. En plus, c'est vrai que... Ça, c'est quand tout se passe d'une façon, il a les noms d'ailleurs, sérénement.
Elle s'appelle Serena,
voilà.
Exactement. Ouais.
Tout se passe bien sérénement. Elle est fantastique à la scène, elle est très sympathique et surtout une voix excellente. Je sais que, vrai, c'est... Je vais pas dire ça parce qu'elle va pas aimer si on dit que c'est un sosie.
Bartoli, c'est moi qui l'ai dit tout ça.
Voilà. Je ne dirai pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a... une voix prometteuse, déjà une belle carrière derrière elle, et devant elle sans doute.
Et donc sur la scène de l'Opéra de Lausanne, on va écouter donc Cecilia Bartoli, hein, c'est pas Serena Malfi qu'on va écouter ici dans un enregistrement de la Cenerentola. Le temps de vous remercier, merci beaucoup Adriano Sinivia.
Merci à vous d'avoir accueilli, et j'espère que vous allez apprécier autant ce Cendrillon.
Et je rappelle donc aux auditeurs d'Espace 2 que le 7 novembre, cet opéra sera diffusé sur nos ondes. On va écouter en fait la toute fin, on est ici tout à la fin de l'œuvre.
Que vous allez reconnaître peut-être la musique qu'on a déjà entendue dans Les Barbiers.
Rossini se copiait lui-même, c'est ça?
Eh oui, hélas. Non, hélas. Oui, c'était un grand feignant, quelquefois. Donc, celui arrivait de se copier lui-même.
On écoute ce final avec la voix d'André Cecilia. Bartoli, merci beaucoup, Adrien Sinivia. Oh, la voix de Cecilia Bartoli, d'ailleurs dans un des enregistrements qu'il avait fait connaître pour le grand public, la Cenerentola de Rossini. C'est la fin de l'œuvre qu'on écoute ici, et donc cette production de l'Opéra de Lausanne avec Serena Malfi dans le rôle de la Cenerentola, Angelina en l'occurrence, également au casting Edgardo Rocha, Alexandre Diakov, Giorgio Cauduro, Laure Barras, Catherine Trottmann et Luigi De Donato. L'orchestre de chambre de Lausanne et le chœur de l'Opéra de Lausanne sous la direction de Pascal Meyer, c'est Stefano Ranzani qui dirige l'orchestre, et puis la mise en scène de notre invité qui vient de nous quitter pour continuer son travail. Visiblement, il y a beaucoup de choses à faire entre toute la machinerie et le rythme comme ça à respecter. C'est Adriano Sinivia qui nous a rendu visite. Je vous rappelle donc qu'Espace 2 va poser ses micros pour cette production de l'Opéra de Lausanne, et que vous pourrez entendre ce spectacle le 7 novembre prochain à 20h sur Espace 2. On va maintenant continuer l'émission grâce à vous, Nicolas Julien. Je vais transmettre aux auditeurs vos plates excuses. Un peu en avance, vous allez tout de suite comprendre. On va partir au cinéma et c'est juste après Bartoli.
Alors ça va, rentrer ou sortez, monsieur, mais laissez pas la porte ouverte, c'est insupportable.
Elle a toujours chanté comme ça?
Ah non, elle a beaucoup progressé.
Non, c'est très intéressant, c'est très personnel.
Merci. Il n'y a que la musique qui compte pour moi. C'est ça ou devenir folle, vous m'entendez? Folle.
La bande-annonce donc du film Marguerite de Xavier Giannoli qui est sorti sur les écrans romans, c'était mercredi dernier, Nicolas Julliard, donc belle transition vocale avec cette voix donc de Marguerite qui est incarnée à l'écran par Catherine Froh. On annonce déjà une nomination au César probablement pour cette actrice, donc chanteuse d'opéra au talent on va dire plutôt discutable, mais qui chante envers et contre tout, Nicolas.
Oui, c'est ça un peu. Et qui choque la bonne société française des années 20 dans laquelle elle évolue, mais comme cette Marguerite est richissime, personne n'ose lui faire comprendre qu'elle chante comme une casserole, et son incroyable talent ou son manque de talent la porte jusque sur la scène de l'opéra. Toute ressemblance avec un personnage ayant existé étant bien entendu délibérée.
Mais vous faites donc allusion à Madame Florence Foster Jenkins, on a déjà écouté hein, l'air de la nuit en version, mais c'est encore, ce qu'il y a là, c'était encore peut-être pire ce que je viens d'entendre.
C'était
là,
pire.
Ils ont forcé le trait, donc une américaine, hein, Florence Foster Jenkins, qui était considérée évidemment comme la plus mauvaise chanteuse du monde.
Et source inépuisable de rire pour tous les mélomanes, son récital enregistré en 1937 cet air de la Reine de la Nuit n'a jamais quitté les catalogues, on le distribue toujours, le disque se vend, on sent même un regain d'intérêt pour ce personnage insolite. Alors avant d'interroger cette fascination, désolé, il faut qu'on l'écoute quand même un peu.
Et là, donc, on a la vraie voix de Florence Foster Jenkins, oui. L'air des clochettes de l'Acmé, de Léo Delibes, vous l'aurez peut-être reconnu, allez savoir. C'est donc extrait de ce disque The Glory of the Human Voice, la gloire de la voix humaine, avec évidemment quelques points d'interrogation sur la pochette, cet enregistrement légendaire, hein, il faut bien le dire, de cette soprano américaine, qui a donc inspiré le scénario de ce film Marguerite, qui est actuellement sur les écrans de Suisse romans, des écrans romans, pardon. Nicolas Julliard, c'est une voix particulière, il faut dire qu'elle avait tout de même 69 ans hein, au moment de l'enregistrement.
Et que, bah oui, 7 ans plus tard, à 76 ans, elle chante à guichet fermé au Carnegie Hall de New York. On dit même que Cole Porter et Giancarlo Menotti était dans la salle. Alors, pas pour la pure séduction de son timbre enchanteur, vous l'imaginez bien. On rit, voilà, on rit d'elle depuis des décennies. Mais bien sûr, il y a quelque chose de jaune dans ce rire. Xavier Giannoli l'a bien compris et son très beau film Marguerite n'a rien d'une comédie débridée, même si on imagine que le prénom Marguerite pourrait provenir, ça c'est mon hypothèse, de la Castafiore de Tintin qui chante dans l'air des bijoux, souvenez-vous, est-ce toi Marguerite ?
Et donc c'est vrai qu'on a tous grandi avec l'exemple de la Castafiore. On voit bien que Florence Foster Jenkins a réjoui plusieurs générations, mais aujourd'hui, disons, on semble s'y intéresser plus que jamais. C'est pas le seul film. Hein.
Non, vous l'avez lu comme moi, outre Marguerite, un autre film, un biopic signé Stephen Frears, est en préparation avec Meryl Streep dans le rôle de Florence Foster Jenkins, ça promet. Alors pourquoi le cas de cette chanteuse calamiteuse fascine tant aujourd'hui, en 2015 ? Le film de Xavier Giannoli donne peut-être une piste de réflexion. L'argent au cœur du drame est le moteur de cette société d'après-guerre. On parle de la Première Guerre mondiale ici. La baronne Marguerite, alias Florence Foster Jenkins, dépasse par le seul pouvoir de sa fortune, ce à quoi ses compétences ou son absence de compétences pouvaient la destiner. Le lien est vite fait avec ce qu'on observe aujourd'hui dans différents domaines. Florence Foster Jenkins se paye Carnegie Hall, comme aujourd'hui de grands financiers s'offrent des fondations d'art contemporain, ou comme Donald Trump pense pouvoir s'acheter avec ses milliards la présidence des États-Unis.
Ils ont peur aux gens en disant China, China tout le temps, j'ai vu ça sur Internet notamment. Donc un symbole de l'emprise, de l'argent. D'accord, on est quand même dans un domaine qui est très spécialisé, Nicolas, c'est celui de l'opéra.
Oui, avec au centre le culte du beau chant, la recherche de l'intonation parfaite, un métier sans faille. Donc une voix qui déraille, une voix qui rate un contre-rute, ça fait les gorges chaudes des mélomanes. Et aujourd'hui, avec la généralisation de la vidéo, des récitals filmés disponibles sur Internet, on voit comme ça des internautes fans d'opéra qui traquent les ratés des vedettes ou les anomalies historiques à la Florence Foster Jenkins. On voit tourner en boucle, par exemple, la vidéo d'une soprano serbe, Dragana Jugovic, qui chante Carmen en état d'ébriété avancée.
Vous mettez, voit vraiment de drôles de choses.
Oui, mettez Drunk Carmen sur YouTube et vous verrez de quoi je veux parler. Mm-hmm. On a vu également un CD, il y a quelques années, un CD baptisé The Muse Surmount. Florence Foster Jenkins et 11 de ses rivales. C'est le sous-titre de l'album. Alors un disque qui présente d'autres exemples de récitals calamiteux, comme par exemple celui d'une certaine Olive Middleton qui ose aboyer, je ne peux pas dire autrement, le Trovatore de Verdi, et même les chœurs sonnent faux, vous allez voir.
Beaucoup, Nicolas Jean, ce best-of des horribles versions de l'opéra, c'est l'occasion de ce film Marguerite, hein, qui est à voir sur les écrans de Suisse romande. Donc, ce qu'on vient d'écouter est franchement atroce. On est assez d'accord là-dessus. D'ailleurs, on voit mal qui voudrait vraiment écouter ça chez soi plus qu'une minute 22. C'est ce qu'on a fait. C'était déjà assez difficile.
C'est déjà assez pénible. Alors, c'est vrai, pourquoi cet intérêt qui paraît grandissant pour ces castafiores historiques? Bon, l'autre explication qu'on pourrait donner, à part la question symbolique, c'est que ces dernières décennies, le chant classique a subi une standardisation toujours plus grande, avec comme corollaire la réduction du type de chant qu'on considère encore comme le beau chant à l'opéra, d'où peut-être une réaction, qui sait. Dans d'autres musiques comme le rock, par exemple, ça fait longtemps que les voix bizarres, les voix qui déraillent sont chéries pour d'autres qualités, qu'on pense à Tom Waits avec sa voix cassée, ou même à Bob Dylan avec ses dérapages devenus marque de fabrique. Le grand spécialiste de la question dans le domaine lyrique, c'est un certain Donald Collop, un fou d'opéra qui a publié 32 CD baptisés « Shall I go on ? Dois-je continuer ?» C'est ça que ça veut dire.
Est-ce qu'on lui a répondu depuis ?
Je sais pas. 32 compilations de curiosités opératiques, de ratés, de récitals calamiteux ou simplement loufoques. Et en vérité, on voit apparaître ce qui s'est passé il y a quelques années dans le domaine des musiques populaires, c'est-à-dire l'émergence d'une forme d'art brut. Dans la pop, on a appelé ça l'outsider music. Plusieurs livres et disques ont mis en valeur des artistes qui ont créé leur propre univers musical, loin des canons de la bienséance pop. Il y en a aussi, il faut le dire. Et puis, parfois, comme dans le cas de l'art brut, des gens qui ont des problèmes psychologiques, tout simplement, et qui s'enregistrent. Alors, peut-être que cet intérêt plus vif que jamais pour Florence Foster Jenkins, qui gagne désormais le cinéma, tient aussi à une forme de réaction face aux bienséances pesantes de l'art lyrique, allez savoir. Je vous laisse méditer sur la question à l'écoute d'un exemple fameux d'outsider music.
Encore un.
Mais cette fois-ci dans un domaine plus populaire. C'est un homme qui fait un scat assez improbable. Il s'appelle Shubby Taylor.
On l'écoute.
Oui, chou sous sang, chou sous spa, chou pou plan, dou dou ra, dou dou sang, dou dou ra, sidoulet ouida, sidoulet dout plibla, oui, da da shra, la pa sa, da da ra, la da shri, lo pou pa, da dou sang, sidoulet ouida, sidoulet dout plibla, re, sha da ha, sha pa gra, sa pa sa, sha pa ra, sa pa da, sha pa ha, sidoulet dout dat, dout plibla, dout plibla, bin, sidoulet dina la,
Et voilà donc Shubby Taylor, qui est un peu le Florence Foster Jenkins du scat et du jazz. Je rappelle donc le point de départ de cette chronique qui nous a donné l'occasion d'écouter quelques merveilleuses mesures musicales, Nicolas Julien. C'est ce film Marguerite, hein, film de Xavier Giannoli avec Catherine Fro, actuellement sur les écrans, un roman qui est un très très bon film, qui est à conseiller.
Oui, absolument. Au-delà de l'aspect musical un peu difficile de la chose, non, c'est un très beau film et plus sérieux qu'il n'y paraît.
Très bien. Merci beaucoup, Nicolas et Julien. On va changer, quoi qu'on ait, on est dans un style peut-être assez proche, hein, avec ce Shubby Taylor qu'on vient d'écouter. On va annoncer la deuxième édition d'un festival de funk music. On n'a pas tellement l'habitude d'écouter ça sur les ondes d'Espace 2, mais on va faire une petite incartade avec notamment un des groupes invités donc pour cette édition qui commence le 30 septembre à Lausanne, dans plusieurs lieux. Et avant d'accueillir un des programmateurs musicaux de cet événement, on écoute un extrait de la musique du groupe anglais Simandé. Remember, Et voilà le groove du groupe anglais Simon Day, le funk donc au programme de ce festival Holy Groove qui démarre à Lausanne ce mercredi 30 septembre et pendant 4 jours et dans plusieurs lieux. Pour accueillir à l'antenne Damiano Boscacci. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Alors, pour les auditeurs qui connaissent pas très bien le funk, mais un peu mieux le rap français, il faut tout de suite dire que ce qu'on écoute là, en fait, eh bien, ça nous fait clairement penser à quelque chose, non ?
Oui, effectivement. C'est un des samples, c'est un des morceaux originaux qui a été repris par MC Solar, en fait, pour son sample, pour le morceau Bouge de là.
Qui a fait un grand tube. C'est un peu le début du succès du rap en France. Est-ce qu'on peut tout de suite dire Damiano Boscacci? C'est justement cette musique funk. Elle a continué d'arriver à nos oreilles, en fait, dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000. Justement, peut-être principalement par l'utilisation qu'en ont fait les rappeurs, hein, et le principe de l'échantillonnage.
Exactement, c'est vrai que le sample, l'échantillonnage, en fait, ça a permis de remettre au goût du jour des grands classiques ou même quelquefois des groupes un peu moins connus, et puis de refaire découvrir la soul, le funk, parfois même le jazz aussi, bien sûr, grâce à notamment MC Solar et plein d'autres rappeurs et groupes connus, notamment américains, Gangstar, Mastice, les Fugees qui avaient remis aussi au goût du jour Simon Day avec leur album.
Avec pas mal de problèmes de droits d'auteur, hein, d'ailleurs.
Avec pas mal de droits d'auteur, ouais. Ça, c'est quelque chose qui a, dans les années 90, il y a eu un peu ce souci-là. Les groupes reprenaient, samplaient les morceaux, mais payaient pas forcément les droits d'auteur. Mais je crois que depuis, c'est une question qui a été un peu réglée.
D'accord. C'est monsieur James Brown, notamment, qui a subi pas mal de, disons, de vol ou d'emprunt non déclaré de ces grooves pour des morceaux du rap. Donc, vous êtes avec nous, Damiano Boscacci, pour nous parler de ce Holy Groove Festival. Seul festival en Suisse consacré à cette musique funk et soul. Des choses
pareilles.
Incroyable.
Exactement. C'est vrai que ça fait longtemps en fait que certains d'entre nous organisent des soirées dans Lausanne, mais aussi dans la région, dans la Suisse romande en général. Et puis tout d'un coup, on s'est réunis il y a maintenant, ça fera bientôt 3 ans, parce que là c'est la 3e édition.
Ah, j'ai dit 2e, 3e, toutes mes
excuses. Oui, c'est la 3e en fait. Et puis c'est pas grave. Et puis donc on a décidé en fait de joindre un peu les forces et puis de créer ce festival vraiment dédié à la soul et au funk. Mais après de manière assez large, donc l'idée c'est de pouvoir faire découvrir ce style de musique, mais dans toutes les variations possibles, que ce soit avec les sonorités africaines, latines, jazz, rock, parce que c'est quand même la soul et le funk, c'est quand même il y a quand même des influences qui viennent de tous les autres styles aussi.
On va utiliser...
Donc voilà, ce qu'on recherche, c'est le groove en fait, surtout.
On va utiliser un terme à la mode, Damiano Boscacci. Quel est l'indice de croissance de votre festival ? On est à la 3e édition, donc d'une édition à l'autre, est-ce que ce festival prend de l'ampleur ?
Alors oui, il prend de l'ampleur, puisqu'on a commencé avec à la base 3 soirées et puis une après-midi il y a 2 ans. L'année dernière, on avait déjà fait sold out 2 des 3 soirées. Et puis cette année, on fait sur 4 soirées, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et puis la grosse différence aussi par rapport aux 2 premières éditions, c'est que cette année, le jeudi soir, on fait une soirée au Docks, donc qui peut accueillir quand même passablement plus de monde que ce qu'on avait avant.
C'est là qu'ils vont jouer d'ailleurs, ce groupe Simon Day.
C'est là que Simon Day va venir jouer en tête d'affiche même du festival. Oui. Et puis avant eux, il y aura le groupe Speedometer qui vient d'Angleterre aussi. Et après Simon Day, il y aura le DJ Florian Keller, qui est un des DJ les plus connus dans le style en Europe, qui vient de Munich.
Mmh. Et vous invitez également un groupe de funk russe. Je trouve ça assez étonnant, hein. Amérique, Angleterre, pourquoi pas. Donc du funk, on en joue en Russie. C'est vraiment une musique qui a fait un peu le tour du monde.
Oui, complètement en fait, mais c'est vraiment ça. Et puis ça faisait déjà depuis l'année dernière qu'on regardait un peu du côté de la Russie, parce qu'il y a 2-3 groupes, 2-3 DJ aussi qui se démarquent là-bas. Et puis là, on a invité donc le groupe Great Revivers, qui va jouer le vendredi au Bourg. C'est un groupe qui vient de sortir son premier album en fait, et qui on a trouvé intéressant, parce que c'est vrai qu'on aime bien faire, autant on aime faire une tête d'affiche avec un groupe qui a certaines reconnaissances, autant notre objectif c'est aussi de faire des découvertes. Et ce groupe qui vient de sortir son premier album, pour nous c'est une pure découverte, avec un côté très psychédélique, un peu rock, peut-être un peu plus sombre comme ça. mais on trouve très intéressant, donc ça nous a à cœur de proposer en fait au public lausannois et au public suisse romand et suisse en général.
Et donc pour les curieux de ce répertoire de musique Black Music, comme ça le Funk Festival du Holy Grove qui démarre ce 30 septembre. Merci Damiano Boscacci d'avoir parlé quelques instants au téléphone dans Magma. On va se quitter avec un autre extrait d'un de ces groupes qui sont invités. Il s'appelle les Mighty Mocambos et le titre ça s'appelle Struggle and Triumph. Ils seront en concert au Romandie le samedi 3 octobre à 21h30. Parler de James Brown avec le programmateur du festival. Une petite citation comme ça, avec un extrait donc du groupe allemand The Mighty Mocambos, un des nombreux groupes invités par ce festival Holy Grove, festival de funk music. Donc il faut avoir envie un peu de faire la fête, de ressortir sa coupe afro et son pantalon patte d'éléphant. Des groupes qui viennent de partout, hein, des Anglais, des Américains, des Suisses également, et ces Allemands qui seront en concert le 3 octobre à 21h30 au Romandie à Lausanne. Plusieurs clubs sont concernés. Pour aller au Romandie, vous pouvez aller au Bourg, vous pouvez aller au Docks et vous pouvez même aller encore au Bleu Lézard. On va terminer cette émission avec un concert à vous annoncer. Il a lieu ce soir. Il est organisé par la Société de musique contemporaine de Lausanne, qui propose donc ses concerts dans la salle Utopia 1 du Conservatoire de Lausanne. C'est le lundi. Il y a de quoi avoir vraiment de belles surprises musicales. Ce soir, invitation d'un pianiste espagnol. C'est Alfonso Gomez qui va proposer un récital concentré sur le XXe siècle avec des musiques de Luigi Nono, des musiques de Ramon Lascano ou encore de Tristan Muraille, plusieurs disques à l'actif de ce pianiste espagnol. Je vous propose d'écouter un extrait de la musique de Debussy, en l'occurrence le brouillard de Debussy, en espérant que ça ne présage rien de mauvais pour la météo de cet après-midi. Thank you. Brouillard de Claude Debussy, sous les doigts ici du pianiste espagnol Alfonso Gomez, qui est donc l'invité de la Société de musique contemporaine de Lausanne pour un récital qui aura lieu ce soir à 19h dans la salle Utopia 1 du Conservatoire, donc de la Haute École de musique de Lausanne. Un programme consacré notamment aux œuvres de Luigi Nono, de Ramon Lascano ou de Tristan Muraille. Et le programme donc du concert, je vous l'ai donné, je vous rappelle l'Opéra de Lausanne et donc cette Cenerentola de Rossini qui est à découvrir à partir du 2 octobre. Demain, dans Magma, le plaisir de parler en duplex de Paris avec un grand spécialiste, encore jeune, mais grand spécialiste quand même de la musique baroque, c'est Sébastien Dossé, à la tête de son ensemble Correspondance, qui viennent de faire paraître chez Harmonia Mundi un magnifique double CD, le concert royal de la nuit autour du répertoire musical de la cour de Louis XIV. Donc demain, musique baroque à écouter à partir de midi dans Magma. Je remercie Christophe Esseva qui a réalisé l'émission, Chloé Gagliardini qui se charge de l'assistance de production de Magma. Merci à vous d'être à l'écoute au quotidien de
Magma
sur Espace 2. Je vous rappelle quelques adresses utiles, notamment notre site rts.ch/magma, un site grâce auquel vous pouvez télécharger, réécouter toute l'émission ou des parties. Également l'adresse email magma@rts.ch si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur notre humble production. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. C'est le journal sur Espace 2. Il est présenté aujourd'hui par Nathalie.